Bon.
Monsieur agronome, non.
Audrey, tes parents, ils...
On t'écoute.
Merci. Alors, qui à vous, Miftere Rabanan. Alors, on est une...
Le dernier.
Le dernier, tout en bas. On est dans une suite de textes divers et variés, les uns qui étaient des conclusions de Hamida, qu'est-ce que disait chacun. C'est des prières personnelles, d'accord? Puisque l'objectif de la tfila, et c'est d'ailleurs malheureusement ce qu'on ne fait pas, c'est de s'approprier la prière, de faire des prières personnelles. En général, on fait l'Hamida, Ashrei, puis c'est fini, quoi. On fait jamais des prières personnelles où on intègre des choses. Mais en réalité, on voit dans la Gemara qu'ils avaient créé leur propre prière personnelle, et donc ils disaient ça en fin d'Amida, ils disaient ça quand ils avaient étudié tel texte ou tel texte. Et là, on a vu deux fois des prières que se disaient les élèves quand ils quittaient la yeshiva, quand ils quittaient le cours. Ils se bénissaient mutuellement, d'accord, de toutes les bénédictions possibles, alors qu'ils quittaient leur rav. Alors, voilà par exemple un autre exemple. « Qui avoue miftere rabbanan » quand ils se séparaient les chachamim, « mi be rav chizda » de l'école de rav chizda, tous ces élèves. Mais Amré là, il y en a qui disent non, c'est Mibé Rav Shmuel Bar Nachman. C'est une autre école de Rav Shmuel Bar Nachman. Amrou le Achi, il disait ceci. Il se citait un verset de Tehilim, les psaumes, qui dit ceci. Aloufenu Mesoubalim, En Peret ve En Yotset. Ça, c'est la suite qui n'est pas marquée, on va la voir. Aloufenu Mesoubalim, ça veut dire que Alouf, c'est comme dans l'armée, en Israël, c'est quoi Alouf?
C'est un général.
Un commandant ou un général? Général, c'est l'Azi. Alouf, c'est un général? Gan
Alouf, c'est l'adjoint du général.
Bon, alors voilà. Donc en vérité, c'est une personnalité, Alouf en hébreu. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Alouf et nous, Mesoubalim. Oui. Nos maîtres, nos généraux, nos chefs, Mesoubalim sont chargés. Alors le verset est un peu obscur. Et la suite du verset, c'est En Peret Ven Yotset. Il n'y a pas de brisure et il n'y a pas d'exclusion. Alors c'est un verset un peu ambigu dans Télim. De quoi parle David? On ne sait pas quels chefs sont chargés de quoi. Il dit comme nos chefs sont chargés, eh bien personne ne quitte le bateau. En Peret, il n'y a pas de brèche. Puisque nos chefs sont chargés, donc il n'y a pas de brèche dans le troupeau, dans le peuple, dans la communauté. Vaignotet, personne ne sort. Mm-hmm. Alors moi, et donc c'est ça qu'ils se souhaitaient. Bon, c'est probablement la conclusion de leur étude et leur réflexion par rapport à leur maître. Il dit, ils sont chargés de quoi? Et qui sont ces chefs? Aloufenu Mesoubalim, donc la Gemara elle reprend, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire nos chefs sont chargés? Rav Shmuel, il y a une discussion entre deux Chachamim, Rav et Shmuel, Vamrela, Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar. Il y en a qui disent, c'est une discussion entre deux autres maîtres, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Et en réalité, c'est intéressant de voir que Rav Shmuel comme Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, c'est des couples, c'est des gens qui étudient ensemble, d'accord? Donc Rabbi Yochanan, on le connaît plutôt avec Resh Lakish, mais il étudie aussi avec Rabbi Lazar, et Rav Shmuel, c'était les deux copains. Et paradoxalement, il y en a un des deux qui était complètement fauché et l'autre qui était très riche. Entre Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar était immensément riche, et Rabbi Yochanan était un grand fauché. Et pareil dans Rabbi Shmuel. Bon, c'est pas, on va voir si c'est une incidence. Chadamar, un, il disait, que veut dire Mesoubalim? Que nos chefs sont chargés. Alouf et nous, nos maîtres. Pourquoi ils sont nos maîtres? Bah, Torah. Ils sont nos maîtres dans la Torah, ils sont nos maîtres dans l'enseignement. C'est ça, puisqu'ils quittaient la yeshiva. Ou Mesoubalim, que veut dire ils sont chargés? Be mitzvot. Dans les mitzvot. C'est-à-dire, en réalité, chacun essaye de comprendre. C'est qu'il faut, voilà. Vous avez un verset qui dit, nos maîtres sont chargés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de brèche dans la communauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exclusion. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne quittent pas la communauté et qu'ils restent attachés à leur maître? C'est ça l'idée. Qui veulent évoluer, puisque ce qu'a dit David Améler. David Améler, il a dit.
C'est la charge, c'est ce que veut dire le mot chargé. Quand moi j'entends
oui.
Ta parole, le chargé, c'est presque habité. Quoi.
Voilà, mais il faut être chargé de quoi pour inciter les gens à rester, à ne pas quitter le bateau. C'est ça qui dit le verset. Nos maîtres sont chargés, voilà pourquoi personne ne quitte le bateau. En Peret, Peret, une pirta, c'est une brèche. Voilà pourquoi il n'y a pas de brèche. Dans la yeshiva ou dans la communauté. Mais en yotzet, yotzet c'est sorti. Pourquoi personne ne sort? Pourquoi personne ne quitte? Parce que nos maîtres sont chargés.
Ils
alors
ont le
premier.
Charisme. Ils ont le charisme.
Et chargés de quoi?
Et ben de,
il faut expliquer
de savoir,
ce que c'est chargé.
Oui,
chargé de savoir.
De savoir et d'emouna. Et de transmission.
Je pense aussi, d'ailleurs, c'est ce qui se passe là maintenant tout de suite avec toi.
Que quoi?
Parce Parce que si tout le monde reste, c'est que tu es chargé.
Mais chargé voilà. De quoi chargé,
eh ben, de connaissances et d'intérêts, de...
Oui, non, mais captives. Si on s'interrompt...
Tu captives.
Okay. Oui, non, mais vas-y, vas-y.
Tu es chargé de...
Quand on dit... Mais, oui, je comprends, voilà. Si tu veux, mais le mot chargé, c'est plus que ça. C'est porter une charge. Ah, il faut porter une charge. Ah, c'est pas chargé. Oui, chargé dans le sens... Alouvez-nous. D'ailleurs, les autres commentateurs, ils disent... le mot alouf, ça désigne même des animaux de charge. D'accord. Mais sous balim, un sabal en hébreu, c'est un porteur de charge, un portefeuille. D'accord. Donc nos maîtres sont chargés, ils sont écrasés par la charge, voilà pourquoi on les suit. Alors ils disent, mais si on est chargé de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un maître soit chargé, qu'un chef soit chargé, pour qu'on le suive? Alors il dit...
De connaissances, non?
Mais oui, mais ils sont déjà nos maîtres. Hein?
Ils sont
déjà nos maîtres. Ils portent quoi en plus d'être nos maîtres? Parce que quand on dit aloufez-nous, c'est nos maîtres. Quand on dit nos maîtres, ils sont déjà chargés de Torah. Mais ils sont chargés d'autres choses.
Oui, ils ont la charge de nous-mêmes.
Mais ils ont la charge de...
Bon, j'entends. Alors regardez ce qu'ils vont dire. Aloufez-nous, ce sont nos maîtres, Torah. Dans le langage de la Torah. D'ailleurs, on voit dans les textes qu'on appelait son maître alouf, mon maître. Ou mesoubalim, ils sont chargés de mitzvot. Voilà. Ce qui fait qu'un maître, on peut avoir confiance en lui, c'est qu'il n'est pas qu'un maître, qu'un intellectuel. C'est aussi quelqu'un qui s'implique dans le quotidien. C'est aussi quelqu'un qui fait des mitzvot, qui fait la tefila bien sûr, etc. Mais c'est pas juste un homme de texte, c'est un homme d'action. Et c'est ça, parce que on ne peut pas se lier avec quelqu'un qui n'est qu'un homme de livre, qu'un homme de réflexion. On est forcé de le voir dans la vie courante. Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Qu'est-ce qu'il fait avec ses parents? Qu'est-ce qu'il fait avec les pauvres? Qu'est-ce qu'il fait avec la cacheroute? D'accord? Si on le voit comme ça, alors, Aloufenomitsubalim, quand, ça c'est le premier avis. Quand on sent que les chefs, ils sont chargés d'action, ils sont chacham, mais ils sont aussi surchargés de mitzvot, alors on ne les quitte pas. C'est première opinion. C'est clair ça?
Mm-hmm.
Ok? Mais on peut pas dissocier la connaissance de l'application pratique de l'action, d'accord? Et ça, c'est très important pour les gens. Mais Khad, le deuxième, il dit non. J'ai un autre avis. Aloufenu ba Torah ou be mitzvot. Ils sont nos maîtres dans la Torah et dans les mitzvot, mais ils tournent dans le même sac. Mais ils sont chargés de quoi? Ou mesoubalim be isourim. D'épreuves, de souffrances, de difficultés. Ça veut dire que quand on voit que quelqu'un, il a de la Torah, il a des actions, et qu'en même temps, il a des difficultés à affronter, que ce soit des difficultés de santé, des difficultés de famille, difficultés d'argent, quelles que soient les types de difficultés, alors, et que quand même il tient bon, il tient la charge, et quand même il essaye d'étudier, alors on s'attache à une personne comme ça. Vous voyez, c'est une autre opinion. C'est-à-dire, c'est bien, c'est sûr que la première opinion, elle est juste, qu'il faut être en même temps l'étude de la Torah, et en même temps les mitzvot. Mais la deuxième optique, elle dit qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'attache à un rav, quand on sent que malgré les difficultés, eh bien, il persévère dans l'étude de la Torah. Ok. Issourine, c'est les épreuves. Comment?
Une
non, c'est avec un aleph. Issourine. D'accord? Parce que mon Michel, assour, c'est interdit, c'est assour.
Oui, assour.
Mais ça s'écrit avec un aleph. Issourine, aleph yud. Tandis que là, il n'y a pas de aleph, c'est issourine. D'accord? Des épreuves. Très bien. Hop. En peret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de brèche. Où est-ce qu'on a vu qu'il y a des brèches? Et là, vous allez voir. Une petite citation de grand maître où il y a eu des brèches, d'accord? Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des exceptions à ces règles-là, parce que le maître, on va aller voir. Chez l'Oté, Sia, Tenu, il ne faut pas que notre groupe, une Sia, c'est un groupe de personnes, qui est Sia, Toshel, le Shaoul, soit comme la communauté de Shaoul. Shaoul, c'était le premier roi d'Israël, d'accord? Et c'est lui qui est David a succédé à Shaoul. C'était le premier, c'était un homme très grand. Kagmara a dit qu'il était... En fait, quand on lit le Tanakh, sans les commentaires des Chachamim, on a beaucoup de mal à cerner les personnages. Parce que quand on lit, si vous avez lu la Bible, ce que je vous conseille, même en livre de chevet, parce que c'est assez, pas les prophètes, et ça, c'est illisible avant de dormir, mais lire les non mais c'est vrai, c'est des trucs, c'est très compliqué. Mais quand vous avez les rois, les juges, etc., Samuel 1, Samuel 2, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Et quand on voit l'histoire de Shaoul, le roi Saoul, c'est très compliqué. Parce qu'il a l'air d'un parano contre David. Quand vous voyez, il passe son temps à courir derrière David, je vais tuer David. Alors que les rois disent non, pas du tout. C'est vrai qu'à un moment, il a été jaloux de David, parce que David prenait le, la place, le premier plan. Mais c'était un très grand homme, Shaul. Et c'est un grand maître de Torah. Et malgré tout, dans son cercle, donc chez l'Oté, si Atenu, qui s'y a de chez Shaul, qu'il ne faut pas que, ça, que notre groupe ressemble au groupe de Shaul, chez Atsa Mimeno Doeg Adomi, dont a émergé quelqu'un qui s'appelle Doeg Adomi. C'est-à-dire Doeg Adomi, c'est, Doeg, c'était un homme qui venait de la nation de Edom, d'accord, et qui s'est très mal comporté. Et pourtant, c'était un ami proche de Shaul. Ok, et qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez, c'est une sombre histoire où Shaul, il courait derrière David pour le tuer. Et David se sauvait. Il est resté longtemps, une semaine presque, sans manger. Et il s'est réfugié dans une ville qu'on appelait Nov. Ça vous dit quelque chose, ça? C'était une ville que de prêtres. Nov Irakoanim. Et puis après, il a mangé, etc. Il a quitté la ville. Shaul est arrivé, il a dit, mais quoi, vous avez donné à manger, vous donnez l'hospice à mon ennemi? Il s'est énervé. Alors, il y avait à côté de lui son garde du corps, enfin, c'est un soldat. C'est à la fois un ami, à la fois un serviteur, qui a dit, ne t'inquiète pas, moi je vais m'en occuper. Et il a tué 80 prêtres les uns derrière les autres. 80, tac, 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 avec l'accord de Shaul. Alors c'est vrai que ça la fout mal, quoi, parce qu'après on dit que c'est un grand, etc. Donc on a du mal à percevoir les personnages. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut dire la Gemara? C'est qu'il y a un problème là-dedans, ça s'appelle une brèche. Shaul, c'était un tzadik, d'accord? Parce que les Chachamim n'ont pas de problème. Quand quelqu'un c'est un pauvre type, on va dire c'est un pauvre type, d'accord? Même des gens de valeur, on va voir des maîtres de la Torah, où les Chachamim disent, d'accord, c'est des maîtres, mais c'est des pauvres types. Ils ont mal tourné, d'accord? Ou bien même s'ils n'ont pas mal tourné, mais en tout cas, ils ont fait des erreurs. La Gemara n'a pas... Les Chachamim n'ont pas de problème pour mettre le doigt sur les erreurs des plus grands, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, quand il faut mettre le doigt, on ne cache pas les erreurs des maîtres. En tout cas, ici, ce que dit la Gemara, parce que la Gemara Brachot, elle dit qu'effectivement, si d'un groupe social émerge un uluberlu comme ça, c'est qu'il y a un problème dans le chef.
Dans le chef ou dans le groupe?
Dans le chef. Parce qu'on dit, c'est ça qu'il dit David Ameler. Alouvenou mesoubalim. Quand nos chefs sont chargés de Torah, de mitzvot, d'épreuves, ils ont de charisme ou de ce que tu veux, d'accord? Eh bien, ils donnent une unité dans le groupe et ils font que personne n'émerge comme un rachat. Or ici, c'est ce que la Gemara dit, il ne faut pas que ça se passe comme ça s'est passé là, parce que Shaul n'a pas assez scindé son groupe, d'accord? Et ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui a émergé comme ça, qui a eu un comportement anormal. D'accord? Dans un groupe social, une communauté, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est le chef qui donne la cohérence du groupe et qui permet que personne ne sorte comme ça. C'est un peu dur, mais...
C'est-à-dire
Hachem, il donne le libre arbitre à l'homme. Hachem, il n'est pas responsable des sorties de groupe. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, c'est le plus grand, il est chargé de tout ce que tu veux, de toutes les bontés. Mais il laisse l'homme aller dans tous les sens. Hachem n'intervient pas pour la cohésion du groupe. C'est l'homme qui est responsable de la cohésion de son groupe. Si ça répond à peu près à ta question.
Non,
c'est trop facile de dire, ah oui, mais Hachem, il est tellement grand, alors pourquoi il nous laisse? Non, Hachem, il laisse faire. C'est le libre arbitre de l'homme, dans tous les sens. Après, on doit rendre compte. On rend des comptes. Mais Hachem n'intervient pas. En tout cas, c'est le premier exemple avec Shaul et Doeg. Le deuxième exemple, Vayniotset, personne n'est sorti du groupe. Encore plus fort. Chez Loté, Siatenu, Kessiato, chez le David. Pour pas que notre groupe, il ressemble au groupe de David. Donc, vous voyez, chez Atsa Mimeno Achitophel, dont c'est exclu quelqu'un qui s'appelait Achitophel. Alors, c'est encore plus grave. Achitophel, c'est un très grand sage, qui était le maître de David Ameler, son maître. Et il l'appelait Aloufi, d'ailleurs, dans le même texte. Aloufi, il l'appelait mon maître. D'accord? Et la Gemara dit qu'il a beaucoup appris d'Achitophel, et pourtant, Achitophel a tourné Kazakh, et il a tourné le dos à David, pour s'allier au fils de David, pour faire une rébellion, etc. Donc la Gemara dit, il y a un problème là-dedans, que voilà, ici on voit de nouveau une brèche dans un groupe social, hein, un groupe qui était fort, c'est tous les amis de David, les conseillers de David, et pourtant, Achitophel s'est allié à Abshalom. Abshalom, c'est celui qui avait les cheveux longs, qui voulait tuer son père. Ouais. D'accord ? Et Achitophel s'est mis avec lui. Donc, c'est dur à entendre, mais c'est vrai que normalement, la puissance du maître, elle doit empêcher ça. Alors bon, maintenant qu'on a vu que c'est arrivé avec David, ça va, on est tranquille, quoi. Mais disons que sur le principe, c'est ça qu'il doit y avoir. Ouais. Troisièmement, Ven Sebacha. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que, vous voyez, comme je disais que l'Agmara ne cache rien, on a vu, bon, Shaoul. Shaoul, c'est un peu compliqué parce que c'est déjà un personnage compliqué. Mais David, il est aussi sous soupçon. Il a composé le Tehillim, c'est un grand maître. David Ameller fait partie du Char Zélès, en fait, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment. Et pourtant, il n'a pas réussi à retenir. Enfin, c'est un peu dur de parler comme ça, mais il n'a pas réussi à retenir Achitophel, l'empêcher de s'écarter de lui. Donc il y avait un problème. Et le troisième, Ven Sebacha, il n'y a pas de cri. Il n'y a pas de cri normalement dans un groupe scindé. Pourquoi ? Chez l'Ote, si à Tenu, que si à Toshé l'Elisha. Pour pas que notre groupe, il ressemble au groupe de Elisha. Elisha, c'est un prophète, d'accord ? Élisée, c'est l'élève de Eliaou. Chacun connaît Eliaou, on a vu le prophète Élie. Il avait un disciple qui était aussi un prophète qui s'appelait Elisha, Élisée. Et ce disciple, il avait un serviteur qu'on a déjà rencontré dans notre étude qui s'appelait Gehazi. Alors lui, c'est le roi des pauvres types. Alors lui, il a fait toutes les bourdes, il les a faites, lui. Gehazi. D'accord ? On en avait une ou deux avec Gehazi. Pourtant, c'était l'élève du prophète. D'accord ? C'est souvent, on a ces histoires-là. Vous avez, tourne autour des grands rabbinim ou des prophètes, des gens un peu louches, un peu loufoques. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là avec Baba Salé, avec ci, avec ça ? T'as des gens qui tournent autour, qui sont. Et on a toujours la question de savoir, mais enfin, c'est un grand rab, c'est un grand sadique, c'est un prophète. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Et ici, on a vu Elisha, qui était un prophète, qui avait avec lui un serviteur qui s'appelait Gehazi. Et ce Gehazi-là, de ce que raconte le Tanakh, il en a fait deux, trois un peu durs. Par exemple, Elisha, il refusait toujours les dons en espèces. Il dit non, moi j'aide, ma prophétie, j'aide, etc. Et quand, il y avait des généraux qui, parce qu'il y avait, bon, toute une histoire avec un général syrien qui était venu le voir, il lui a donné un conseil parce qu'il avait la lèpre, vous savez, c'est bon, voilà. Et il lui a dit, voilà, je vais te couvrir d'or. Il dit non, remercie Dieu qui m'a mis prophète, je veux rien. Et il est parti avec son cheval, il est extraordinaire ce type-là. Et son serviteur Gehazi, il a couru derrière, il a dit, regardez, si vous avez des trucs pour moi, moi je prends. Bon, c'est pas trop méchant ça, d'accord ? Mais il a fait encore pire ce zouave, on dit ce zouave, parce que la Gemara dit, elle massacre Gehazi. C'est quand il y avait des dames qui venaient voir le prophète Elisha, il leur courait derrière, il faisait des trucs pas jolis, etc. Il profite de la situation, il profite de nanani, nanana. Et la Gemara dit, non. Et quand Elisha, il s'est rendu compte, il lui a dit, c'est fini. Dehors, je ne veux plus te voir. Et la lèpre du général qui était venu t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie, toi et toute ta famille. Enfin, il a fait une malédiction salée à Gehazi. Mais malgré tout, la Gemara, elle le donne comme exemple d'une brèche, d'accord, dans le groupe mené par un grand maître. Il y avait le groupe mené par Shaoul, le groupe mené par David, le groupe maintenant mené par Gehazi. Alors, après, la taille du groupe, ce n'est pas grave. Sous-entendu, ça veut dire que normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Si nos maîtres sont chargés, nos maîtres sont pleins de tout ce qu'on veut, eh bien, il ne doit pas y avoir ça. C'est le pasouk de Tehilim. D'accord ? Et enfin, Birchovotenu. Donc, vous avez quatre termes. Il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de cri, si tout se passe bien. Donc, la brèche, c'était Odoeg Adomi qui a tué la ville de Nov, comme exemple. Il n'y a pas de sortie, c'est Achitophel avec David. Il n'y a pas de cri, ça c'est Gehazi. Et enfin, Birchovotenu dans nos rues. Des cris. Chazak. Avec un dédain, il dit parce que comme Gehazi, il avait la tsaraat, oui, or la lèpre, le principe de la tsaraat, c'est qu'il doit toujours dire aux gens écartez-vous, j'ai la lèpre. Donc personne n'est obligé de mettre en avant ses erreurs. C'est ma question. Bechovonenu dans nos rues, eh bien la Gemara, elle va faire un truc un peu dur, mais je vous le dis comme ça. Chez Lo Yelanu Ben, il ne faut pas qu'on ait un fils au Talmid ou un élève. Chez Magdiar Tabshilo Barabim, qui fait brûler la marmite devant tout le monde. C'est une expression Magdiar Tabshilo. Pourquoi ? Parce qu'on offre à nos enfants, comme un maître, il offre à ses élèves de quoi se cuisiner pour la vie. D'accord ? On ne lui met pas juste à manger, on lui apprend à cuisiner. C'est ça l'idée, ok ? De l'enseignement. Et il y a parfois des gens qui utilisent mal et qui font brûler le plat. C'est une expression, c'est un euphémisme pour dire qu'ils sortent loin de l'enseignement initial. Donc la Gemara a dit, de la même manière, on a beau jeu de parler sur Elisha et David, etc., mais en réalité, la bracha qu'il doit y avoir et qui est de la responsabilité du père et non plus du grand maître ou de l'enseignant, c'est de la responsabilité du maître qui n'est pas un enfant qui sorte du cadre familial, d'accord ? Parce que ça veut dire sortir du cadre familial. Bien sûr que l'enfant, il a son libre arbitre, mais il y a une puissance au cercle familial qui fait que normalement, ça ne doit pas sortir. Ou si ça sort, ça revient. D'accord ? Un peu dur à entendre. Il y a probablement et certainement des exceptions, parce que c'est trop facile de dire nananer. C'est la réalité, on voit qu'il y a des grands maîtres qui ont eu des enfants qui n'ont pas très bien tourné. On sait ça. Même des grands maîtres contemporains, qui n'ont pas tourné autant aussi bien que leur père, et des fois, il y en a qui ont mal tourné, ça arrive. Donc, surtout, on est dans un monde tellement complexe que, disons que ce sont toutes ces gmarottes, globales. Mais c'est vrai qu'en général, quand vous avez un cadre familial qui est soudé, etc., si ça sort, ça rentre. Ça peut toujours sortir, mais ça revient. Oui. Il m'avait dit, je viens que si je m'exprime. Donc, c'était la condition, j'ai dit, tu viens, tu t'exprimes.
Mais vas-y, continue, parce que du coup, je ne m'en rappelle plus. C'est ce que je voulais dire. Mais ça va revenir, vas-y.
D'accord. Non, mais c'est libre. Ok. Oui. Et en réalité, vous ne pouvez pas le savoir, parce que la Gemara dans Sanhédrin, ça fait des jours qu'on ne sait pas, le Talmud, il a été censuré. D'accord ? J'ai d'ailleurs jamais compris que les chrétiens, ils estimaient le Talmud. D'accord ? Même s'il y a des époques qu'ils ont brûlé les chariots de Talmud, etc. Mais au lieu de dire « on brûle tout », ils censuraient le Talmud. Ils le laissaient intact et ils censuraient. C'est-à-dire chaque fois qu'on parlait de la chrétienté, etc., ils le censuraient. Et on a retrouvé, il y en a très peu parce qu'ils ont tout brûlé, tous les noms censurés, ils ont tout brûlé. On a encore des éditions du Talmud non censuré où il y a une cinquantaine de pages, des feuillets, qui parlent de la naissance de Jésus, de ce qui se passait avec Jésus, etc. C'est ça qu'ils ont censuré. Et dans cette Gemara-là, oui, qu'on n'ait pas un fils ou un élève qui sorte mal, qui brûle le plat, et la Gemara dit « Kegon », comme par exemple, parce que chaque fois on a donné un exemple, comme Doé, comme celui-là. Et là, il n'y a pas d'exemple. Et la Gemara dit « Kegon Ishu Anitri », comme Ishu le chrétien. Parce qu'en réalité, Ishu, c'était l'élève d'un grand rave de la Gemara. D'accord ? Bon, mais ça va nous amener loin. Mais en réalité, ce Ishu, oui, notre île étranger, d'accord ? Mais c'est un texte d'Agmara, puisqu'il était, c'était l'élève d'un rave de l'Agmara. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Ishu, ils étaient une fois, bon, juste en parenthèse, c'est très intéressant, et puis sinon vous ne le trouverez jamais. Ishu, il était une fois dans une auberge. Et il a dit à son maître, oh, elle a de beaux yeux, la servante. Alors le maître dit, oh, on étudie la Guémara, là. Et il l'a renvoyé. Bon, et finalement, il a plus ou moins mal tourné, etc. Et puis un jour, il est venu pour s'excuser auprès de son maître, dire, bon, je reconnais, etc. Et manque de chance, si on peut dire comme ça, le maître faisait la Amida. Et donc, il n'a pas répondu. Et Ishu, il a pensé que ça veut dire je te veux plus, et il est sorti complètement. D'accord ? Alors vous allez me dire, bon, c'est un concours de circonstances, etc., etc. Mais présenté par la Gemara, ça sous-entend que le maître avait laissé cette possibilité-là d'excommunier un élève. Ça veut dire que je vais un peu loin, hein, mais qu'est-ce que dit la Gemara ici ? Elle dit que quand nos maîtres sont chargés, etc., et qu'ils présentent, eh bien, les gens ne sortent pas. Et même s'ils sont balancés par le maître, ils disent, pas possible, je le connais, il est tellement bon, tellement gentil, il m'aime tellement, jamais ils m'auraient balancé. Donc, le fait que Ishu parte, en ayant une mauvaise compréhension de l'amida de son maître, ça sous-entend que, et d'ailleurs la Gemara, elle dit qu'on ne doit jamais repousser quelqu'un avec les deux mains. D'accord ? La Gemara dit, tu pousses la main gauche et tu tiens de la main droite. Dans toutes les relations sociales, la Gemara dit que ce soit avec sa femme, avec son enfant, avec tout, tu repousses avec la main gauche, qui est la main la plus faible, et tu ramènes avec la main droite. Toujours un équilibre entre la distance et l'amour. D'accord ? Et la Gemara dit, pas comme Rabbi Shimon ben Acharya, je crois que c'est lui, qui avait repoussé Ishou, etc., qui l'avait repoussé trop durement. Donc, ça veut dire qu'on lui met quand même une responsabilité, même s'il y a un concours de circonstances malheureux, on lui met quand même une responsabilité, en tout cas, c'est exprimé comme ça dans la Gemara. D'accord ? Trop dur. Et donc, cette dureté, bah, ça nous a donné le christianisme. Vous êtes bon ? Très bien. Donc, l'élève qui... Bon, d'accord. Jusque là, on est bon. Shimu Elai. Voilà, on est au deuxième paragraphe. Shimu Elai, Abir Elev, Arechoki Mitzdaka. On entame un nouveau paragraphe sur la base d'explication d'un verset de Isaïe. Écoutez-moi, Shimu Elai. Comme on a vu que les maîtres, les grands personnages, ils sont appelés des Aloufim, des généraux. Mm-hmm. Il y a un autre terme qui s'appelle Abir. Abir, ça veut dire fort, comme Abir Yaakov. Rabbi Yaakov, c'est vraiment l'Abir Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit le prophète dans Ishaïa ? Shimu Elai, écoutez-moi, Abir élève, ceux qui ont le cœur solide, Arechokim Mitzdaka, qui sont éloignés de la charité. Donc, je vous ai dit, les versets des prophètes, ils sont toujours compliqués, il faut voir les commentateurs, il faut voir ce que dit la Gemara, mais si vous le lisez comme ça, ça ne veut rien dire. D'accord ? Shimu Elai, écoutez-moi, Abir élève, ceux qui ont le cœur solide, Arechokim Mitzdaka, qui sont éloignés de la charité. Qui est éloigné de la charité ? La Gemara dit pareil, Rav Shmuel, il y a une discussion entre les deux copains, Rav et Shmuel, Amri la Rabbi Yochanan Rabbi Lazar, il y en a qui disent Rabbi Yochanan Rabbi Lazar. Chadamar, lui dit, qui sont ces gens qui ont le cœur solide ? Kol haolam kulo nizonim bitzdaka. Oui, donc il y a des maîtres qui sont éloignés de la tzedaka. Que veut dire être éloigné de la tzedaka ? C'est pas un comportement, puisqu'on a dit avant, le maître, il doit avoir un comportement adéquat. Donc, au contraire, de quel tzedaka on parle ? Alors, il dit comme ça, « Kol haolam kulo, le monde entier, nizonim bitzdaka. » Il est nourri par la charité d'Hachem. Ça veut dire que, comme le dit la Gemara souvent, il ne faut pas imaginer que ce qu'on a, on le mérite. C'est vrai qu'on fait des bonnes actions, on fait tout de bien. Mais par rapport à tout ce qu'Hachem nous donne, la majorité des choses qu'Hachem nous donne, c'est gratos. Ça veut dire qu'Hachem nous donne beaucoup plus que ce qu'on mérite ou ce que nous, on lui donne. En fait, on ne lui donne rien, lui, il n'a besoin de rien. Mais ce qu'on pourrait attendre de nous. D'accord ? Bon, on fait plein de bonnes choses. Tout le monde fait plein de bonnes choses. Mais en comparaison avec ce qu'Hachem nous donne en 70 ans de vie, la santé, la vie, la femme, les enfants, la parmassa, etc., il nous donne des milliers de choses. Puis pas seulement nous, la nature, le monde, enfin, il nous donne plein de choses, Hachem. D'accord ? Ça, c'est la tzedaka. Hachem, il a décidé de créer le monde sur la base de la tzedaka, pas sur la base du din. C'est-à-dire, la nature, elle est sur la base de la rigueur, mais le fonctionnement du monde, il est sur la base de la rachamim, sur la base de la miséricorde. Alors, pourtant, elle dit la Gemara, il y a des gens qui sont éloignés de la tzedaka. Kol haolam kulo nizunim tzedaka. Le monde entier est nourri grâce à la charité et la bonté d'Hachem. Vehem, et ces gens puissants, nizunim bitzroa. Ils sont nourris avec le bras, avec la force. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des gens exceptionnels, qui en réalité sont tellement grands, tellement élevés, que même si on les jugeait avec le din, ils mériteraient ce qu'ils ont. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement élevés, ils ont un niveau tellement élevé, qu'en réalité, entre guillemets, il n'y aurait pas besoin de la tzedaka d'Hachem, de la charité d'Hachem, ils méritent ce qu'ils ont. Alors bon, c'est vraiment des gens exceptionnels pour mériter ce qu'ils ont. Mais la majorité du monde, est dit, kol haolam kulo, quasiment le monde entier, est nourri par la tzedaka. Et l'autre, il dit, Chadamar, le deuxième avis, il dit, kol haolam kulo, nizuni bizrutan, que le monde entier, parfois, est nourri grâce au mérite de gens élevés. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Ça veut dire comme ça. Dans la vision mystique, on va dire, du monde, d'accord ? Le monde, il fonctionne pas comme ça. Nous, pour nous, le monde, les dés ont été lancés, et puis on circule dans un monde qui fonctionne tout seul. D'accord ? Bien sûr que c'est Hachem qui l'a créé, c'est Hachem, etc. Mais le monde fonctionne tout seul. En réalité, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Hachem, il influe dans le monde du chesed, de la bonté, en permanence. Et c'est lui qui donne tout ça. C'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah, c'est ce qu'on demande tous les jours. Et par qui passe la bracha du monde? Par les tzadikim. D'accord? C'est une vision du monde. Par exemple, si je vous disais que toute la bracha dans le monde, elle passe par Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des canaux d'influx divin. Il y a un influx divin qui vient dans ce monde. Eh bien, la Gemara dit que toute la bracha dans le monde, elle passe par Eretz Israël. Et toute la bracha, même qui en est d'Israël, elle passait par le Beth Amikdash. Maintenant, Beth Amikdash a été détruit, donc des cas de secondaire. Mais vous voyez, tout le bien qu'Hachem il amène dans le monde, ça passe par Eretz Israël, parce que c'est le lieu de jonction entre le monde spirituel et le monde matériel. Et donc, ça passe par là. En l'absence de Beth Amikdash, ça passe par les canaux des tzadikim. C'est-à-dire, ce sont les tzadikim, d'accord, les tzadikim dans le sens le plus large, sont les gens justes, qui par leur service d'Hachem permettent à la bracha de venir dans le monde. Donc tout ce que nous on mérite, mais nous on ne sait pas, personne ne sait, d'abord ça ne se voit pas, en plus les tzadikim ils font pas de bruit, on ne sait pas qui c'est pas forcément des très grandes barbes, il y a des grands tzadikim qui ont une toute petite barbe, et qu'on a d'autres qui ont des très grandes barbes, d'autres qui ont des péotes, d'autres qui n'ont même pas de barbe, d'accord? C'est-à-dire, la notion de tzadik, c'est souvent pas des gens, pourquoi on appelle les tzadiks cachés? Parce que les vrais tzadikim, ils sont cachés. Ceux qui sont publics, ils sont... Le fait d'être public, c'est déjà moins important. En tout cas, dit la Gemara, que toute la bracha du monde, elle vient grâce aux tzadikim. Et eux, ils n'en profitent pas. Souvent, ils n'en profitent pas parce qu'ils sont pauvres, ils sont en difficulté. Ils ne sont que les canaux, les vecteurs de la bracha du monde. D'accord? Alors ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, admettre. C'est un autre regard sur le monde. D'accord? Nous, souvent, on a l'impression que... La bracha nous arrive direct. Hachem, il t'a béni, il a béni, bon, je lui demande, ça vient. Non, ça vient par un canal qui est le canal des tzadikim. C'est pour cette raison que le peuple juif, il attachait toujours à ces tzadikim. D'accord? Surtout, même chez le monde ashkenaz, mais dans le monde sfarad est très attaché aux justes, aux tzadikim, aux rabbanim, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés. Bon, on verra après le problème des décédés. Qu'est-ce qu'ils font dans le monde? Est-ce qu'ils agissent encore? Ils agissent pas? En tout cas, les Juifs, enfin le clan Israël, ils sont attachés au tzadikim. Elle dit la Gemara que kol haolam kulo, le monde entier nizuni bizrutam, il est nourri par le mérite des tzadikim, qui sont ces gens au cœur fort. Mais eux, ils sont éloignés de la tzedaka, c'est-à-dire afilu bizrutatma, même par leur propre mérite, et nan nizunin, ils ne sont pas nourris, c'est-à-dire ils refusent de prendre au passage un peu de la bracha qui passe au travers d'eux. Que de Rav Yehuda Amarav, comme Rav Yehuda il est nom de Rav, de Amar Rav Yehuda Amarav, Bechol Yom Vayom, chaque jour, écoutez bien cette phrase, Bechol Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol, il y a une voix céleste, Yotzet Me'achorev, qui sort du Mont Sinaï jusqu'à aujourd'hui, de Omeret et qui dit, Kol Haolam Kulo, Nizun Bishvil Chanina Beni, le monde entier, il est nourri par un seul sage, qui s'appelle Rabbi Chanina Ben Dosa. Chanina béni et Chanina mon fils, Dailo, ça lui suffit, Bekab Charoubin, d'une mesure de Karoub, comme il a mangé Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Rav Shabbat, les Rav Shabbat. Donc ça veut dire que c'est des choses inconnues. Mais la Gemara, elle dit que Rabbi Chanina ben Dosa, c'est un homme tellement grand que son mérite suffisait à nourrir le monde. Et si vous remarquez, il y a quelque chose d'intéressant, regardez. Kol haolam kulo, Nizun Bishvil Chanina Beni. Vous avez vu ce texte-là? Tu suis le brésilien là? Regarde le mot. Shvil, c'est quoi Shvil en hébreu? Un chemin, un sentier. D'accord? Et donc en réalité, on pourrait traduire cette phrase. Le monde entier est nourri grâce, Bishvil c'est à grâce, mais Bishvil par le sentier, par le chemin, par le canal de Rabbi Chanina Ben Dosa. Shvil c'est un canal, Shvilim, les canaux. Le canal de Rabbi Chanina Ben Dosa, c'est les tzadikim. Ils ouvrent des canaux entre le ciel et le monde, et c'est par ces canaux qu'arrive la bracha dans le monde. Et ici, on voit que le canal de Rabbi Chanina ben Dosa, il est tellement grand que c'est lui qui permet au monde de se nourrir. D'accord? C'est pour cette raison, toujours on dit que quand des tzadikim partent, eh bien, il y a une baisse de puissance dans le monde, parce qu'ils amenaient ce canal-là. Très bien. Et la Gemara continue. Ou pliga de Rav Yehuda. Tout le monde est bon?
Non, je suis perdu.
Alors, je suis dans le paragraphe Bet, et on est, voilà, on est 2, 4, 6, Septième ligne. D'Amar Rav Yehuda. Vous êtes bon? Au pliga de Rav Yehuda. Et en réalité, tout ce qu'on vient de dire, c'est pas d'accord, enfin, c'est en désaccord avec Rav Yehuda. D'Amar Rav Yehuda. Man Abir élève. Qui sont les gens qui ont le cœur dur? Abir, c'est fort. Qui c'est les gens qui ont le cœur dur? Goubaé, Tipchaé. Ce sont les Goubaïm, c'est une nation, Tipchaé, imbécile. C'était des Goïm. Il y a eu une époque où le peuple juif, il était dans toute sa gloire. Pas seulement financière, mais dans sa gloire intellectuelle, culturelle. C'est l'époque des yeshivas qu'il y avait en Syrie et en Irak. Et dans ces pays-là, vivaient des gens, des nations, des peuplades, qui se sont jamais intéressés à la culture juive. Et la Gemara dit, regarde comme ils sont bêtes ces gens-là. Il y a tellement de beauté dans la culture juive, et ils se sont jamais intéressés à savoir qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. Amar Rav Yosef, Rav Yosef dit, Teda, sache qu'ils sont bêtes ces gens-là. Il n'y a personne qui a fait l'effort de se convertir. C'est-à-dire que la culture juive, elle est forte, elle est puissante. Et vous avez des fois des gens qui sont intéressés, comme les Chinois, les Japonais, qui veulent étudier le Talmud. Ils disent, il y a quelque chose là-dedans. Et les nations que le peuple juif a traversées, parfois, elles ont donné des convertis, mais parfois non. Et la Gemara dit, par exemple, en Irak et en Syrie, là où il y avait des grandes yeshivot, il y avait une peuplade qui s'appelait les Goubaé. Eh bien, ces gens-là, ils n'ont jamais fait l'effort de se rapprocher. Ils ont côtoyé le monde juif sans jamais vouloir s'y intéresser. Et la Gemara dit, c'est un reproche qu'on peut leur faire. C'est des gens qui avaient le cœur insensible. Renamar Ravashi, et comme il a dit Ravashi, Valen Bene Matamechasia, les gens de la ville de Matamechasia, ceux-là, il y avait une grande yeshiva. La Gemara dit que Matamechasia, donc c'est en Irak. La Gemara dit qu'il y avait des yeshivot et des réunions d'élèves tellement grandes que quand c'était la fin du cours, il y avait une colonne de fumée qui se voyait à des kilomètres et des kilomètres, tellement il y avait de gens qui venaient écouter le cours. Et la Gemara dit, avec tout ça, avec le monde qui venait assister à ça, à Birel, les gens de cette ville, ils se sont jamais intéressés, comme dit l'autosuite, qu'il y avait même une colonne de feu qui entourait les Chachamim qui donnaient ce cours-là, ils n'ont jamais bougé. Et la Gemara dit, « Dekar chazou bishivcha deoraita » Ils voyaient la gloire de la Torah, très imné bechata, deux fois par an, qu'il y avait une habitude à l'époque, c'est que comme c'est pas comme maintenant, il n'y avait ni internet, ni des yeshivas dans toutes les villes, il fallait, si tu voulais étudier, il fallait se déplacer. Il fallait faire des kilomètres, être absent de la maison pendant longtemps. Et ils avaient mis en place un système que quasiment deux mois par an, les gens partaient dans des centres d'études, leurs femmes, ils laissaient la maison à leurs femmes, et ils partaient étudier deux mois par an. D'accord? Et après, ils revenaient. Et la Gemara dit, jamais personne s'est converti de toutes ces peuplades-là. Donc c'est eux vraiment ils ont le cœur fermé. Très bien. Alors c'est un grand jour parce qu'on termine là maintenant le deuxième Perek de Brachot dans la Hagada. Et vous avez en bas Perek Shlishi, le troisième. Donc on saute complètement à un autre sujet. Et dans ce troisième Perek, le début de ce troisième est très intéressant. On va parler des morts. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on est mort? Quelle relation on a avec les morts? Et quelle relation les morts ont avec nous? Est-ce qu'il y en a une ou il n'y en a pas? D'accord? Nous, pour nous, les morts, ils sont au cimetière, c'est bon, chacun sa vie, on fait l'ashkaba, etc. La Gemara dit, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a une vie dans le cimetière, si je peux m'exprimer comme ça? Et est-ce qu'il y a un contact entre les morts et les vivants? Et sous quelle forme et de quelle manière et quel lien il y a entre ces gens-là? D'accord? D'accord, ça va être le centre d'intérêt. Donc on avance un petit peu. C'est bon pour tout le monde? Tania. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en général, on le met comme une expression, comme un euphémisme. C'est-à-dire on veut, comme politiquement correct. Ça veut dire en hébreu, on ne dit pas un aveugle, on dit un
malvoyant.
Non. Ça, c'est en français qu'on dit politiquement correct. En hébreu, on dit un bienvoyant. Qui voit très bien, Sagenéor, qui a beaucoup de lumière. D'accord? On peut dire, c'est une lumière intérieure, etc. Mais c'est aussi, comme politiquement correct, on ne dit pas le cimetière, c'est l'endroit des morts, non, on dit Bet Achaim, l'endroit de la vie. Alors c'est vrai que tu disais aussi, c'est pas faux, c'est qu'en l'appelant l'endroit de la vie, c'est qu'on met le doigt sur notre croyance en la résurrection des morts. Et que c'est pas On ne les met pas là-bas pour que ça pourrisse et c'est fini, pour les oublier. Non, parce qu'on est certain que les ces morts vont revivre. C'est pour ça qu'on entretient nos cimetières. Ok ? Alors, regardez. Tania, tout le monde est bon ? Lo yalech adam bebet akvarot. Donc pour l'instant, ce qu'on va voir, et c'est une Mishnah, qui va, dans notre comportement, de quelle manière on doit se comporter dans un cimetière. Et à partir de là, ça va nous introduire sur notre conception du mort. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah ? Lo yalech adam, tout le monde est bon ? Georges, t'es bon ? Tout le monde est bon ? Greg, t'es bon ?
Oui.
Lo yalech adam bebet akvarot. Ou tefilin berosho. Il est interdit de marcher dans un cimetière avec des tefilin sur la tête. Vous allez me dire, bon, c'est le zouave qui va faire. Non, je vous explique, on avait déjà parlé, qu'avant, les gens, ils gardaient les tefilin toute la journée. Comme maintenant, en Eretz Israël, vous trouverez des gens, oui, dans le travail, comme je vous ai raconté, je l'ai vu, moi, j'ai vu un conducteur de camion poubelle à Jérusalem avec les tefilin. Il conduisait le camion poubelle, et il avait les tefilin. D'accord ? Alors, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Mais à l'époque, non, justement. Normalement, les tefilines, c'est quelque chose qu'on garde toute la journée. D'accord ? Allez, oui.
Ah ben, j'ai vu là, dans la liste de prière que c'était quelque chose qui se mettait le matin.
Maintenant, pourquoi ? Parce que les tefilines, c'est quelque chose de saint, et donc on doit garder une sainteté et corporelle, et de pensée, et de comportement. Et comme maintenant, on n'a plus tellement l'occasion, et parce qu'on circule, etc., donc on dit, tu les gardes dans la prière et tu les enlèves. Non, le soir, on ne les met pas. C'est que le matin. C'est le schéma, ça. Ce que tu dis, c'est le schéma. Le schéma, c'est le matin et le soir. Ça, c'est juste. Mais les tefilines, on les met le matin, une demi-heure, trois quarts d'heure, après on les enlève, c'est fini jusqu'au lendemain. Et encore, on doit y faire attention, on doit être propre, on doit si, on doit avoir des bonnes pensées. Mais historiquement, enfin, socialement, à l'époque de la Gemara, il y avait des gens, et même jusqu'à encore maintenant, qui gardaient les tefilines. Et sur le principe, on doit garder les tefilines. Même maintenant. Si quelqu'un, c'est marqué dans les tefilines, que si quelqu'un il peut étudier avec les tefilines, après la tefila, ou il peut... On a le droit de boire un café avec les tefilines, on a le droit de discuter avec les tefilines. Mais il faut être kasher, il ne faut pas dire de la shonara, il faut pas... Donc ça devient compliqué, quoi. Mais si quelqu'un, il veut faire attention, il essaye de faire attention, on peut vivre avec les tefilines. D'accord ? On peut vivre avec ces tefilines. Et donc, à l'époque de la Gemara, les gens, ils travaillaient avec les tefilines. Ils étaient cordonniers, ils étaient tisserands, ils étaient...
Ça apporte une force.
Eh bien, le tefilin, c'est un symbole de lien avec Hachem.
Ouais.
D'accord ? De lien intellectuel, c'est la tefiline de la tête, et de lien matériel, c'est le bras. D'accord ? Le bras, on les lanières, on dit, cette force, c'est Hachem qui me la donne. Ça, c'est ma force. Et ça, c'est ma chokhma. D'accord ? C'est-à-dire que c'est Hachem qui me donne et la force et la chokhma. C'est pas moi, ça c'est l'idée des tefilines. Donc on comprend qu'on les fasse, qu'on les mette toute la journée. Quand tu vas faire une conférence ou que tu vas, je sais pas quoi, étudier, si tu as tes tefilines, ça te redescend d'un cran. Tu dis, c'est pas moi, c'est mes tefilines. D'accord ? Et quand tu vas travailler, même physiquement, si tu as tes tefilines, d'accord ? Ça te ramène à l'ordre en te disant, bon, c'est Hachem qui me donne la force. Alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude du tout, donc je ne vous conseille pas d'aller travailler avec les tefilines. Non, si en Eretz Israël, on pourrait. Il y a des gens qui le font. Alors c'est vrai, quand tu dis c'est des allumés, je ne dirais pas là, c'est allumé, mais disons que c'est des gens un peu exceptionnels, quoi. J'en ai pas beaucoup. Il y en a qui gardent les tefilines. Vous savez ce que c'est un kollel ? Un kollel, c'est des gens qui étudient toute la journée, ou une yeshiva. Il y a des kollelim où les gens, ils ont les tefilines toute la journée. Ils étudient toute la journée avec leurs tefilines. Alors, c'est bien, parce que ça t'oblige à une retenue, à une concentration, à faire attention à pas parler, pas dire de bêtises, alors que, tu vois, on pourrait pas avoir les tefilines dans le chiot, là. Et encore, non, c'est sympa, on dit pas des bêtises, on dit pas de la chanara, on essaye. Mais il y a des gens qui ont même maintenant, qui ont les tefilines toute la journée. Et je dis, le summum, c'est mon conducteur de camion poubelle qui avait les tefilines. Je voulais prendre la photo, et j'ai pas pu la prendre, parce que c'est à mettre dans les journaux, ça. Hein? Bah, ils sont éclairés. En tout cas, donc voilà pourquoi la Gemara a dit, mais on va voir que, à notre époque, l'équivalent c'est les tzitzit.
Oui,
de la même manière qu'on n'a pas le droit de rentrer avec des tefilines dans un cimetière, on ne peut pas rentrer avec les tzitzit. Que ce soit un talit ou même, c'est ceux qui ont le talit, quand on a talit katan, il y a les tzitzit qui sortent, les tifils là. Tu connais ça, Michel?
Si, bien sûr.
Les talit katan, d'accord, qui se met sous la chemise, etc.
Mon frangin, il en avait.
Et ben voilà. Et ben quand on rentre au cimetière, on doit ranger les tzitzit. Tu dois enlever tes tefilines, ranger les tzitzit. ou bien mais Sefer Torah Bizro, on n'a pas à avoir un Sefer Torah ou un livre de Torah dans le bras, vécorer et se mettre à lire. Pourquoi? Veimoseken, si tu vis comme ça, envers, tu transgresses, Mishum Loeg Larash, Chereboseu. Tu transgresses une injonction de Michelet. Alors, c'est drôle ça, c'est aussi intéressant. En général, on transgresse les lois de la Torah. Oui, mais les prophètes et les proverbes du roi Salomon, etc., c'est pas des mitzvot. Or, ici, on voit, on te dit, tu transgresses une parole des proverbes du roi Salomon, qui dit, Loeg Larash, celui qui se moque du pauvre, Cheref Oseu, il blasphème celui qui l'a fait. Ça veut dire que se moquer de quelqu'un ou qui est pauvre ou qui est déficient ou n'importe quoi, alors bon, ça faut le faire, mais même d'un pauvre, finalement, ça revient à blasphémer celui qui a créé cet homme-là. Tu disais, Hachem, il s'occupe pas de tout, hein, parce qu'il y a des comme ça, il y a des comme ça, il y a des comme ça. Alors quand on dit se moquer, ça peut être aussi avoir un regard compatissant, etc. Ça veut dire que la règle, c'est que c'est Hachem qui fait tout. Donc si Hachem est fait comme ça, tu ne dois pas avoir de jugement là-dessus. En tout cas, la Gemara a dit, si on transpose sur notre cimetière, le fait d'aller dans un cimetière, d'accord, la tête haute en disant, voilà, moi j'ai mon talit, moi j'ai mes tzitzit, moi j'ai mon sefer, quelque part, tu te moques de celui qui est couché et qui ne peut plus rien faire. Voilà. Donc en réalité, ça met, donc il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que on doit pouvoir tirer des enseignements, pas seulement des versets de la Torah, mais même d'une phrase morale du roi Salomon. Et la deuxième, c'est que cette idée de se moquer du pauvre, elle est valable dans tous les domaines. Comme c'est marqué dans les Sfarim, quelqu'un qui a un problème à se mouvoir, il ne faut pas courir à côté de lui. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent, il ne faut pas sortir les billets à côté de lui. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, d'accord, il ne faut pas parler de ses enfants à tout bout de champ, parce qu'il n'a pas d'enfant, le pauvre. Donc c'est-à-dire que cette idée de se moquer du pauvre, etc., elle est à mettre en facteur sur des milliers et des milliers de situations, d'accord. Et ça, c'est juste l'exemple du pauvre, mais il y a des milliers de situations où on doit avoir la délicatesse de la faiblesse de l'autre. Ça, c'est très compliqué, hein. Il y a plein de situations. Quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui scie, quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui scie. On ne peut pas manger des gâteaux à quelqu'un qui a... C'est pas joli. C'est se moquer de lui quelque part. Et en se moquant de lui quelque part, il y a une forme de blasphème. Ça veut dire que Misken, tu vois, tu peux pas. Il y a un problème dans la. Il y a un problème là. Ok.
Ah ouais.
Quoi?
Je me suis moqué de lui parce qu'il a mis les gâteaux plus
mal. Ah mais il a pas de diabète lui. Non, il a pas de diabète. Quoi?
Ça revient à ce que tu dis, il ne faut pas concentrer les mots, ils ne peuvent pas mettre les
tétés. C'est ça, voilà, ça c'est ce qui est marqué, voilà. Parce que les morts, ils ne peuvent pas. Donc,
ils peuvent pas.
Donc là, on a avancé d'un grand cran. Eh ouais, bien sûr, il mérite. Là. Merci, Pilou, là.
Vas-y, Marco.
Alors. Ouais. Donc ici, on a déjà avancé d'un cran. Ça sous-entend, alors on peut voir, ça sous-entend que le mort, il a une sensibilité. Eh ben oui, ça s'appelle se moquer du mort. D'accord. Ça sous-entend que le mort a une sensibilité et qu'il ressent les choses et qu'il voit les choses et qu'il perçoit les choses. Ok. Alors en réalité, je vais un peu loin parce qu'on va voir que c'est pas faux, mais je vais un peu loin, mais c'est pas forcé. Je veux dire pourquoi? Parce que il y a un texte qui dit que quand il y a eu les 10 plaies, oui, qu'il fallait, la première des plaies c'est quoi? Michel,
quoi?
La première des 10 plaies c'est laquelle? Si c'est pas là, c'est vraiment, tu vas le payer cher. Hein. Les 10 plaies de César.
La...
J'en sais rien. La...
Les 10 plaies à Pézard.
Oui,
tu connais une des 10 plaies?
Attends.
Aucune des 10 plaies. La sortie d'Égypte, il y avait 10 plaies, ça, tu
oui.
sais.
Oui.
Tu rappelles les grenouilles, la mort des premiers-nés.
Oui, alors attends. Il y a les
sauterelles. Tu n'y étais pas là-bas?
C'est les sauterelles.
Mais non, voilà. La première des 10 plaies, c'est le sang.
Non.
Après, il y a les grenouilles. Dame, il faut les connaître. Ça te rappelle?
C'est le sang. D'abord,
c'est
ah oui.
Succès sur la. sur
ouais. Ah, écoute-moi. Donc, la première des 10 plaies, Mais je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Mais...
Non, mais alors attends. Ouais. D'abord qu'on parle des 10 plaies, parce que les 10, les 11 plaies, tout ça, c'est pas grave. Mais quand tu rentres dans un cimetière.
C'est bon, j'ai bien fait de vous l'amener quand même. C'est un numéro spécial. Hein.
Ouais.
Quand tu rentres dans un cimetière.
C'est le frère de mon copain, à part ça, que c'est mon copain. C'est le frère de mon copain, donc il mérite tous les honneurs. Ouais, d'accord.
Quand tu rentres dans un cimetière, quel que soit. Que tu sois pratiquant ou pas, t'es déjà. Pof! T'as déjà du plomb sur les épaules. Le respect, il est
principe,
normalement constitué. Il est naturel.
Mais ils sont tous morts. Tu vas respecter quoi?
Mais tu respectes le lieu. C'est un lieu.
Il n'y a pas un lieu à respecter.
Si.
C'est quoi si? Pourquoi on respecte un lieu?
Pourquoi tu respectes un lieu? Parce qu'il y a des morts. Et les morts, ce sont des âmes.
On avance. Et les âmes, elles sont là?
Elles sont là et elles sont
au cimetière? Qui t'a dit que les âmes sont au cimetière?
Je sais pas.
Attends, écoute-moi.
Le principe de la mort, c'est que l'âme, elle est libérée du corps et que l'âme, étant libérée, elle s'en va. Elle va. Ouais, t'as raison.
Au PFI, lorsque. Malheureusement, j'ai.
T'as une expérience.
Il y a eu des fois où j'ai dû y aller. Et je me suis dit, là, donc les morts, ils viennent de mourir.
Ouais.
Ok. Et là, je me suis dit, mais.
Je cherche, il doit y avoir une âme par là.
Une vision, tu vois, je me suis dit, mais si ça se trouve, les âmes, elles vont se voir, alors t'es nouvelle ou t'es nouveau, viens, je vais te faire visiter. Enfin,
mais c'est juste.
Dans quoi je suis parti, tu vois.
C'est juste.
Je sais pas si c'est juste. Après, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, je dis, je ne sais pas. Ça m'amuse de penser qu'il y en a une.
Ça t'amuse, ça t'intéresse.
Bah, ça me rassure.
Voilà.
Ouais, non,
alors écoute-moi bien. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, c'est mille fois juste.
Ah, mille.
Mille fois juste. Sauf que, écoute-moi, l'âme, elle reste, on va reprendre ça, l'âme, elle reste à côté du corps après la mort. Toutes les premières périodes, après la mort, jusqu'à l'enterrement, et même après l'enterrement, l'âme est encore là, elle n'est pas totalement libérée. Et c'est les phases, toutes les phases, la semaine, le mois, l'année. C'est des phases de libération de l'âme par rapport au corps. Et après un an, c'est fini. L'âme, elle te dit, ciao, je m'en vais. C'est bon, on a fini, vous êtes occupé de moi, je pars. Mais après la mort, l'âme, elle est juste au-dessus du corps. Elle ne veut pas quitter le corps. Après, tout doucement, elle quitte. Et c'est d'ailleurs ça qui nous donne la consolation. Tant que l'âme, elle est là, on a du mal à avoir la consolation. Donc quand tu dis, il y a peut-être des âmes, elles sont, c'est sûr qu'il y a. Quand tu dis qu'il y a une vie après la mort, enfin... C'est sûr qu'il y a une vie, c'est pas une vie, il y a une... l'âme elle continue d'exister. Maintenant, ce que je voulais mettre le doigt, c'est que au cimetière, il n'y a plus les âmes. Normalement. D'accord? Et le cimetière. Comment? Normalement. Mais non. Et le cimetière, bon, c'est un lieu, c'est bien de respecter le cimetière. Mais a priori, c'est ce qu'on va essayer d'étudier maintenant, les âmes, enfin, les morts, ils s'en fichent. A priori. D'accord? Alors, je me fais l'avocat du diable, mais je vais m'expliquer. Je vais faire une parenthèse. Je vous ai dit que si on dit qu'on ne peut pas les tuilines, etc., c'est forcément qu'on pense qu'ils sont impactés et qu'on leur fait de la peine. D'accord. Alors, je dis, entre parenthèses, c'est pas tout à fait juste. Je veux dire pourquoi. Et pour revenir aux 10 plaies. Quand il y a eu les 10 plaies, la première des 10 plaies, c'était le sang. Vous vous rappelez? Pour les 10 plaies, il fallait une intervention d'un homme. C'était Moshe Aaron. Qui a fait la première plaie? Qui a agi dans la première des 10 plaies? C'est Moshe ou Aaron? Aaron. Et pourquoi? C'est Aaron qui a tapé le Nil pour le transformer en sang. Ça te rappelle des trucs ou pas? Bon, la première des 10 plaies, quand les Juifs étaient en Égypte, Dieu il a dit on va sortir d'Égypte, on va faire des 10 plaies, on va apprendre aux Égyptiens à pas embêter mes enfants. Ils ont eu une tannée 10 plaies qui ont duré un an. Au bout d'un an, il a dit allez, c'est bon, stop. Je les lâche. Ils sont partis. Voilà. Parce que le Nil avait sauvé. Alors, donc l'idée. Quand Moshe était petit, il a été jeté dans le Nil, et le Nil ne l'a pas englouti, etc. Et donc, il y avait une forme de reconnaissance vis-à-vis du Nil, entre guillemets. Donc Hachem, il a dit, il ne faut pas que ce soit Moshe Rabbeinu qui tape le Nil, on va laisser Aaron. Ok? Alors tout le monde demande, mais c'est quoi la reconnaissance? Reconnaissance vis-à-vis de quoi? Du fleuve? Le vol, c'est rien. Un fleuve, c'est quoi un fleuve? Alors, il y a une manière d'expliquer, il n'y en a pas qu'une seule, mais une manière d'expliquer qu'en réalité, le principe de reconnaissance, eh bien, il doit être intégré dans l'homme dans toute sa vie, même vis-à-vis d'éléments inanimés. Il y a un proverbe, lui dit la Gemara, Bira, d'ailleurs il doit y avoir le même problème en arabe ou en yiddish, Bira des chatit miné, un puits duquel tu as bu, ne jette pas des cailloux dedans. C'est-à-dire, un homme, il doit s'habituer à avoir la reconnaissance même vis-à-vis d'objets inanimés. Alors on dit, mais pourquoi? Parce que le principe de reconnaissance, tu dois l'intégrer. Et quand tu te comportes, même vis-à-vis d'objets inanimés, même vis-à-vis de la reconnaissance, c'est-à-dire que ma bonne voiture, ça fait des années que tu m'aides, alors on ne va pas faire du fétichisme, mais non, disons
c'est
que...
Exactement ça.
Oui, non, ce n'est pas du fétichisme. Non, voilà. Non, la voiture, un objet, etc. On ne peut pas... On détruit quelque chose. Quand il y avait quelque chose qui t'a servi et tu lui files un coup de pied, tu le mets à la poubelle, quelque part, tu casses quelque chose en toi. D'accord? Tu avais créé un lien, même s'il était nu. Alors, sans tomber dans le fétichisme...
C'est une forme de deuil.
Non, non. Sans, on doit entretenir ce sentiment de reconnaissance au quotidien. Et tu pour pouvoir l'exprimer de façon forte avec les hommes, tu ne dois pas te désintéresser des objets une fois que tu t'en es servi. Sinon, tu te désintéresseras des personnes quand tu as fini de t'en servir. C'est-à-dire, tu prendras l'habitude de dire, j'ai fini, hop, stylo bic, tu jettes. Alors, comment il faut se comporter, d'accord?
Quel rapport?
Alors, voilà. Donc,
c'est du fétichisme.
Non, c'est pas du fétichisme, parce qu'on doit avoir le recul vis-à-vis de ça. Ça veut dire on peut pas. Tu dois respecter la chose qui t'a aidé, voilà. La respecter, pas l'adorer, mais la respecter. C'est-à-dire que tu dois pas te comporter avec mépris comme si c'est un objet inanimé. Même si c'est un objet inanimé, il t'a aidé. Et donc, au travers de ça, tu gardes le sentiment de reconnaissance intact. Ok ? C'est-à-dire que. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un principe général. Que ton comportement vis-à-vis des objets, il impacte ton comportement même vis-à-vis des humains. La Gemara dit par exemple, un chochet. Oui, d'accord. Il doit faire attention. Parce que c'est vrai qu'il tue des animaux, mais ça se comprend. Mais c'est vrai que tuer des animaux, ça donne une certaine mépris de la vie. Ah mais c'est la vie animale. Oui, mais de l'un à l'autre. Le mépris d'un objet inanimé, c'est beaucoup plus lointain, mais peut t'amener tout doucement au mépris d'un objet animé comme au mépris, c'est-à-dire que tu marches, oui, t'es pas obligé d'écrabouiller les fourmis qui sont sur ta route, d'accord? T'es pas obligé d'arracher toutes les fleurs que tu vois, c'est rien. Les fleurs, elles sont, tu les prends, tu les jettes, les fourmis, etc. Mais écrabouiller les fourmis, tuer les chats, arracher tout ce que tu trouves, ça te crée un sentiment de cruauté comme l'autre, ça te crée un sentiment de non-reconnaissance. Parce que là, on est bon. Donc je voulais dire aussi que le fait de dire je respecte les morts, entre guillemets, en ne les méprisant pas, en cachant mon talit, en cachant mes si, en faisant etc., on aurait pu imaginer que c'est une manière de respecter l'autre comme on a dit qu'on respecte l'objet inanimé, comme on a dit qu'on respecte tout ce qui... Alors là aussi, c'est vrai qu'ils sont morts. C'est vrai que de toute manière, je peux imaginer qu'ils n'en ont rien à faire. Mais je dois garder ce sentiment de respect pour celui qui ne peut pas faire ce que moi je fais. Même si ça n'a pas de réalité. Je vous répète, que ce que je dis... Voilà, ce que je dis, c'est pour montrer qu'il y avait une autre manière de comprendre. Ce n'est pas la manière de la Gemara. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je recommence. Vous avez une Mishnah qui dit on ne rentre pas dans un cimetière avec les tzitzis dehors et avec des livres de Torah. Très bien. Toi, c'est un texte. Toi, tu réfléchis, tu te dis, écoute, les morts, ils sont morts. D'accord? Ils sont tous morts. Ils ne vont pas mettre les tzitzis, ils ne vont pas étudier la Torah. Donc, quel est le problème? Oui? Ça, c'est clair, la question, c'est celle-là. Il y a deux manières d'y répondre. Une première manière, c'est une manière, pas simpliste, mais disons humaine. C'est de dire t'as raison. Mais de la même manière que tu ne te mets pas à courir devant quelqu'un en fauteuil roulant, d'accord, et ça tu le comprends, et bien, et ça, pour intégrer ça, tu dois prendre l'habitude, de même vis-à-vis d'un mort, qui de toute manière il s'en fiche, il n'est pas là, il n'est plus là, et ça ne lui dérange pas, ni chaud ni froid, et bien, tu dois le respecter. Tu vois, c'est par rapport à ta question, c'est pas le respect du cimetière, c'est le respect du mort. Et le mort il s'en fiche, d'accord, mais c'est le respect de moi-même.
Yes.
D'accord? Voilà. C'est cette idée-là, c'est me respecter moi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que il est mort que je peux marcher sur sa tombe. D'accord? Quand tu marches dans un cimetière, quel problème de marcher sur une tombe? Il sent rien. Il est mort, ça fait déjà 10 ans, tu vois, on attend de mon grand-père, il est mort il y a 40 ans. Mais je marche toujours sur le côté, mais il s'en fiche. D'accord ? Non. Mais ce respect, c'est aussi un respect de moi-même, que j'intègre, etc., que je fais attention. Ça, c'est la première vision, une vision, on va dire, psychologique, etc. Mais il y a une autre vision, qui est la vision que va emprunter la Gemara maintenant, c'est de dire que non. Le mort, il sent. Le mort, il ressent. Et je vais te montrer qu'il y a un lien, et que les morts, ils sont juste un peu plus loin que nous. Ils sont peut-être dans un monde parallèle, tout ce que vous voulez, le monde des âmes, vous le voyez comme vous voulez. Mais en tout cas, ils ressentent ta manière de te moquer d'eux. D'accord ? Donc c'est deux regards sur ce texte-là totalement différents.
Mais ça, c'est plus logique, parce que quand tu cours à côté de quelqu'un qui a un fauteuil roulant, si le mort il s'en fout, le type en fauteuil roulant, il s'en fout pas. Il te blesse.
Oui.
Tandis que dans la première version, si le mort est mort, tu le blesses pas. Quand il est avec les petits types, avec les...
C'est un risque.
Oui, mais non, les deux... c'est peut-être ce que tu dis. C'est pas des cas. C'est deux manières d'expliquer le respect du mort et du cimetière. C'est ça que je voulais dire. Il y a deux manières de comprendre ce respect. Est-ce que c'est un respect de soi-même, parce que le mort, il s'en fiche, ou bien un respect du mort, parce que le mort, il ressent. Donc on va voir, on a entamé ça avec Mara. La Mara a dit non, ne pas respecter le mort, c'est se moquer du pauvre, c'est se moquer de l'handicapé, et ça, c'est pas bien. Indépendamment du fait que tu te moques de toi-même, tu te moques du mort, et on va voir pourquoi ça sous-entend que être mort, c'est pas être disparu. Mmh. Il est là. Mmh. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là.
Allez.
J'ai senti le message subliminal. Rabbi Hanan Menakazio, et Razakam, je vous remercie, 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 Rabbi Hanan Menakazio, et Razakam